ho, hi, hi, ho, hi, 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 ha, wo.
Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Amérindien. Portrait, lutte et reconnaissance. Après une introduction aux grandes figures du monde américain qui participent à la reconnaissance des droits de l'homme, des droits des Indiens dans leurs pays respectifs ou autres. J'ai commencé l'introduction de Rêveurs de tonnerre de Maurice Rebex à la rencontre des Sioux Lakota. Reconnaissance à ce peuple, à cette culture et à ces hommes, afin qu'ils ne soient pas oubliés. Aho! L'émission précédente a commencé avec une préface de James Welsh. Je vais, avant de continuer, dire un petit mot à propos de cet homme. James Welsh est né à Browning, dans le Montana, en 1940. Son père est membre de la tribu des Pieds Noirs, tandis que sa mère appartient à la tribu des Gros Ventres. Tous les deux comptent également des Irlandais parmi leurs ancêtres. Enfant, James Welsh se rend à l'école de la réserve Pieds Noirs, puis à Fort Belknap à Genesee. Après un diplôme de fin d'études secondaires obtenu au lycée Washburn de Minneapolis dans le Minnesota, James Welsh obtient une licence à l'Université du Montana. Dans le cadre d'un master en beaux-arts, il suit pendant 2 ans les ateliers d'écriture créative du romancier Richard Hugo. Ce dernier lui conseille d'écrire sur ce qu'il connaît le mieux, à savoir la terre et les gens du Montana septentrional. Cela se retrouve dans son premier livre et unique recueil de poèmes, Il y a des légendes silencieuses. En anglais, Riding the Earth Boy, 40, qui paraît en 1971. Déjà, le vécu amérindien occupe une place centrale. Mais le succès vient avec son premier roman, L'hiver dans le sang, Winter in the Blood, en 1974. Y est décrite avec réalisme la vie dans une réserve indienne du Montana septentrional au cours de la décennie 1960. Ce roman est considéré comme une des œuvres les plus importantes du mouvement littéraire Renaissance amérindienne. Écrivain reconnu aux États-Unis comme en Europe, James Welsh anime des ateliers d'écriture créative à l'Université de Washington à Seattle, puis à la prestigieuse Université Cornell dans l'État de New York, où il enseigne également la littérature amérindienne contemporaine. Docteur honoris causa de l'Université du Montana, de l'Université d'État du Montana et du Rocky Mountain College, James Welsh reçut un prix du Cercle des écrivains amérindiens, Native Writers Circle of the Americas, pour l'ensemble de son œuvre littéraire. En France, James Welsh a été élevé au rang de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2000. Il meurt le 4 août 2003 d'un cancer du poumon à l'âge de 62 ans. Aho! Voici maintenant l'avant-propos de Léonard Peltier. Celui-ci est précédé d'une photo de Léonard Peltier au pénitencier de Leavenworth, Kansas. En 1975, Léonard Peltier, activiste d'origine Lakota Chippewa, fut accusé du meurtre de deux agents du FBI. À l'issue d'un procès qui fit l'objet de manipulations de témoins, de falsifications de pièces à conviction, de dissimulations, d'éléments du dossier d'instruction, Peltier fut condamné à la prison à vie, deux fois. À ce jour, tous ses recours juridiques ayant été épuisés et sa grâce rejetée par l'ex-président Clinton, ses avocats n'ont pourtant toujours pas accès aux archives du FBI relatives à l'enquête. Nelson Mandela, le Dalai Lama, Rigoberta Menchú Tum, l'archevêque Desmond Tutu, José Ramos Horta, Mairead Maguire, Betty Williams, tous prix Nobel de la paix, soutiennent activement Léonard Peltier, comme le font de nombreuses autres personnalités à travers le monde, dont Coretta Scott King, veuve du révérend Martin Luther King Jr. Les écrivains Sherman Alexie, Vin Deloria, acteur et réalisateur Peter Coyote, Danny Glover, Whoopi Goldberg, Chris Christopherson, Robert Redford, Steven Seagal, Oliver Stone, Barbara Streisand font également partie de ceux qui militent pour la libération de Léonard Peltier. Reconnu comme prisonnier politique par l'organisation Amnesty International et par la Fédération internationale des droits de l'homme, Léonard Peltier entamé en février 2002 sa 27e année d'incarcération. Aho. Aho. Avant-propos de Léonard Peltier. L'histoire des indigènes de ce pays n'a pas commencé quand les Européens débarquèrent, égarés dans leur quête de chemin plus rapide vers les richesses de l'Orient. La véritable histoire des peuples indigènes du monde a été déformée, simplifiée, gommée des livres dont se servent les empires pour éduquer la jeunesse. Et c'est un rude combat que de se faire entendre au sein d'une société qui croit que force égale justice, qu'argent égale pouvoir. Pourtant, ignorer les peuples premiers et leur histoire, c'est porter atteinte au dessein d'une puissance supérieure, dont la finalité est l'égalité, l'unité et la paix dans le monde. Ces dernières années, les travaux sur les peuples natifs d'Amérique ont permis d'admettre que ce continent était habité bien plus tôt que ce que les anthropologues prétendaient, et par les représentants d'une riche culture indigène. Nos cultures sont différentes, mais dans les écoles, on n'apprend pas à comprendre qui nous étions, en quoi consistaient nos croyances spirituelles. Comment nos vies s'équilibraient entre la pensée et le corps, entre l'esprit et les forces de la nature. Nous comparant aux Mayas, aux Incas, on s'est souvent interrogé sur l'absence d'une société équivalente sur le continent de la tortue. Mais les anthropologues commencent à mettre à jour les cultures importantes qui s'étendaient à travers l'Amérique du Nord. L'histoire du continent de la tortue est ainsi racontée. Un jour, dit la légende, une femme tomba de la terre du ciel. Elle tomba par un trou laissé par un arbre déraciné. Et comme elle tombait, elle saisit dans ses mains une poignée de graines. Elle tomba très longtemps. Sous elle, pas de terre, seulement les eaux primordiales, et sur ces eaux, des oiseaux et des animaux aquatiques. « Regardez, dirent-ils. Quelqu'un vient. Alors, quelques oiseaux, des cygnes et des oies, s'envolèrent pour l'attraper sur leurs ailes. En bas, les autres créatures tinrent conseil. Il faut trouver un endroit pour elles, dirent-ils. Nous devons apporter la terre. Alors, l'un après l'autre, ils plongèrent pour tenter de rapporter un peu de boue du fond de la mer. Tous échouèrent, sauf le dernier, le rat musqué. Et il apporta une pleine poignée de boue humide. Maintenant, où la mettrons-nous ? Dirent-ils. Mettez-la sur mon dos, répondit une voix profonde. C'était la grande tortue qui remontait des profondeurs. Quand ils eurent placé la terre sur le dos de la grande tortue, celle-ci se mit à grandir, de plus en plus, jusqu'à devenir ce continent sur lequel nous nous tenons, cette terre, sur le dos de la grande tortue. Humain. Petits enfants de la femme du ciel. Alors la femme du ciel y fut placée
existons
par les oiseaux.
Existons à cause et en relation avec la
là,
totalité du monde vivant.
Elle sema les graines qui nous entourent, qui devinrent de bonnes plantes. La terre sous nos pieds est vivante. Ainsi commence ce récit de la création.
C'est une très vieille
histoire. Les théories géologiques modernes avec les idées de plaques tectoniques.
Si cela était arrivé hier.
Et de dérive des continents se conforme bien à l'image de cette terre vivante sur le dos d'un gros animal lent. Aho! Alors que l'Europe traversait la période sombre du Moyen-Âge, les peuples Hopewell et Kaotia construisaient de vastes cités qui s'étendaient de la vallée de l'Oyo jusqu'au cœur du pays. Cette culture du Mississippi se distinguait par un génie agricole et un haut niveau de développement social. À la façon des Mayas, des Incas ou des Égyptiens, ses représentants construisirent pyramides et tumulus. Le plus grand site trouvé à ce jour, à Kaotia, dans l'Illinois, possède une base plus large que celle de la grande pyramide de Gizeh. Et à travers tout le Midwest, les anthropologues continuent de découvrir d'anciennes ruines qui témoignent du mode de vie de leurs habitants. L'arrivée des premiers Espagnols marqua la fin de cette période. Les archéologues reconnaissent aujourd'hui que les nouvelles maladies telles que variole, malaria, scarlatine et autres furent responsables des dévastations que subit cette population. Il n'y avait pas dans le monde agriculture plus élaborée. Les fermiers de l'époque faisaient pousser des légumes qui sont maintenant sur toutes les tables. Les Européens trouvèrent en Amérique des jardins si merveilleux qu'ils en furent confondus, cherchant à les imiter. Les indigènes étaient généreux de tout, honorés de pouvoir partager, fêtant leurs visiteurs. Mais ce qui aurait pu demeurer un paradis ne fit que soulever la cupidité et la jalousie d'hommes uniquement intéressés par le pouvoir et le prestige. Aujourd'hui encore, notre système éducatif refuse de rendre justice aux éminentes sociétés qui autrefois peuplaient l'Amérique. les grandes cités, l'agriculture, les formes subtiles de gouvernement, d'ordre social et de justice, signifier bien-être, confort et ordre pour tous. Les livres qui servent à éduquer les enfants parlent, eux, de sauvages inhospitaliers, sanguinaires et stupides. Afin de s'approprier les Amériques, les Européens présentèrent une image distordue, cherchant à cela à justifier leur agression et leur absence de merci. Ce que les maladies ne pouvaient tuer, les Européens les massacrèrent. Cet holocauste continua jusque dans les années 70 et 80, à l'aide de méthodes certes moins radicales. Constamment soumis à des contraintes et à des lois conçues pour éliminer la culture indigène dans son ensemble, les natifs d'Amérique ont dû faire face à une attaque en règle. Le Termination Act de 1950 fut conçu pour débarrasser le pays des réserves, forçant les Indiens à rejoindre les ghettos des villes et, au bout du compte, à rompre avec la structure sociale de la tribu, du clan et même de la famille. Cette tentative échoua. En 1961, le gouvernement des États-Unis abandonna ce plan. Ce ne fut ni le premier, ni le dernier. Une multitude de traités signés entre 1830 et 1889, avec chaque tribu, furent vidés de leur sens pour permettre l'accès aux terres indiennes et faire partir les natifs de ce qui fut jadis leur accueillant royaume. Il faut admirer un peuple qui survécut à tant d'atrocités, jusqu'à se retrouver au bord de l'extinction. Bien que notre population soit aujourd'hui inférieure à 4 millions d'âmes, nous recommençons à croître. Notre culture, notre spiritualité continue d'être florissante auprès de notre jeunesse. Nos cérémonies se déroulent à travers tout le pays indien. Nos langues ont survécu. Même s'il est vrai qu'au sein de chaque réserve, leur survie est un combat. Je sais que c'est une lutte à travers le monde entier, au moment où l'anglais devient un langage universel. Partout, la télévision, les médias soumettent la jeunesse à des tentations. Mais il est important de garder nos jeunes ancrés dans leur culture, faite de respect, d'identité, de compassion. L'alcool, la drogue, dont l'usage naît du désœuvrement et de la dépression, a emporté beaucoup d'entre nous dans les années récentes, seront, comme le diabète, difficiles à surmonter. Néanmoins, beaucoup d'entre nous ont pu se développer dans un environnement enrichissant, cherchant à profiter des occasions offertes par l'éducation pour aider nos tribus à prospérer. Comme le montrent les lumineuses photographies de Maurice Rebex, nous sommes toujours un peuple beau et fier. J'ai eu l'honneur de rencontrer Maurice quand il m'a rendu visite en prison. Ces images des Lakotas de la réserve de Rosebud dans le Dakota du Sud sont belles. Je me sens reconnaissant et honoré qu'un photographe talentueux tel que lui puisse, à titre personnel et de sa propre initiative, venir ainsi témoigner de ce qu'est mon peuple aujourd'hui. De cette manière, un homme peut aider à répandre la compréhension et le respect entre tous les peuples. Je lui souhaite à lui et à ce livre
le plus grand des succès. Dans l'esprit de Crazy Horse, Léonard Peltier. Aho.
Oh, hi, hi, oh, hi, oh,
hey. Attrapeur d'ombre chez les rêveurs de tonnerre. En introduction. Deux textes. Voici celui d'Edward S. Curtis en 1906. J'ai cherché à décrire le plus fidèlement possible des liens qui unissent les Indiens aux choses de l'univers. Les arbres et les buissons. Le soleil et les étoiles. Les éclairs et la pluie. Qui, pour eux, sont doués d'une âme. Ils les ont défiés, les honorent et les implorent. C'est d'elles que dépend leur bien-être. Comme en réponse, W. Richard West. Presque un siècle plus tard, en 1998, répond. Les vérités culturelles, je le crois fermement, sont créées par ceux qui sont les conteurs de l'histoire. L'invention de la photographie, il y a plus d'un siècle et demi, fut pour la réalité visuelle du monde ce que la presse d'imprimerie fut pour le langage. Une technologie révolutionnaire qui transforma la communication et la transmission de l'information et du savoir. Quand on en vient aux Indiens, cependant, ce sont les Curtis, et non pas leurs sujets indiens, qui furent les conteurs de l'histoire. Aho, attrapeur d'ombre chez les rêveurs de tonnerre. Je ne suis pas un Indien. Aimait à répéter Archie Fireland dire. Infatigable voyageur qui, accomplissant sa vision d'homme médecine, parcourait le monde pour y faire mieux connaître la spiritualité des siens. Vous voulez rencontrer des Indiens? Allez aux Indes. Je suis un Lakota. Les trois syllabes claquaient dans sa bouche en même temps que ses yeux rieurs s'allumaient d'étincelles. Disant sa fierté d'être ce qu'il était. Lakota signifie allié, amical, et provient du substantif Wolakota, qui veut dire paix en langue Lakota. D'ailleurs, comme souvent dans les traditions orales, un seul terme ne suffit pas à restituer le sens d'une telle formule. Et sa substance serait plus justement traduite par que la paix règne sur le monde. C'est que chez les Lakota, comme dans toutes les autres sociétés indiennes, le culturel et le spirituel, loin de former des catégories à part, ne font qu'un. Le mot Lakota doit être compris au regard de cette osmose. Le nom de l'Oyate, du peuple, se révèle alors non plus comme une simple appellation, mais comme une véritable prière, comme l'une de ces multiples adresses au Créateur qui, du lever au coucher du soleil, ponctue aujourd'hui encore la vie de nombre de Lakota. Oui, aujourd'hui encore, car les photographies présentées dans ce livre n'ont pas pour vocation d'évoquer les fantomatiques représentants d'un monde perdu. Elles ne s'apitoient pas sur les derniers vestiges humains de tribus autrefois fières et vigoureuses, mais cherchent plutôt à dire la résistance d'un peuple toujours vivant. Le refus de disparaître d'une communauté humaine ancrée dans le réel et décidée plus que jamais à se projeter vers le futur. Fruit d'une rencontre, regard d'un non-indien sur les Indiens, peut-être, comme le suggère Richard West, ces photographies viennent-elles conter une histoire? Au moins, est-ce une histoire d'aujourd'hui? Aho!
Oh, hey, hey, ha.
C'était Amérindien, portrait, lutte et reconnaissance. Rêveur de tonnerre, de Maurice Rebex. Suite dans notre prochaine émission. C'était la quatrième dimension. Merci et à bientôt.
Hey, hi, ho, hey, ha, oh, hey, 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 ha, ho, ho.